Chapitre 18. Un monde fantôme. Trentor était une planète dévastée qui renaissait de ses cendres, tel un bijou terni incrusté au cœur de l'affolante nuée de soleil qui encombrait la partie centrale de la galaxie, des monceaux d'étoiles qui s'y trouvaient agglutinés avec une prodigalité aveugle. Trentor se prenait à rêver, déchiré entre le passé et l'avenir. En un temps désormais révolu, les tentacules immatériels servant de canaux à sa puissance avaient jailli de son revêtement de métal pour s'étendre jusqu'aux points les plus reculés du royaume des astres. Trentor avait été jadis recouverte sur toute sa surface par une cité colossale, abritant 400 milliards d'administrateurs, la capitale la plus puissante qui eût jamais existé. Depuis que le déclin de l'Empire l'avait atteinte dans ses œuvres vives, suivie du grand pillage 100 ans auparavant, sa puissance n'avait cessé de décroître, de se replier sur elle-même, brisée à jamais. Dans la fulgurante tourmente qui avait déchaîné sur elle la ruine et la mort, la coque de métal qui enveloppait la planète s'était crevassée et effondrée en une douloureuse caricature de sa propre grandeur déchue. Les survivants arrachèrent une à une les plaques de métal et les cédèrent aux autres planètes en échange de semences et de bétail. Le sol fut remis à nu et la planète retrouva sa vocation première. En ouvrant des territoires de plus en plus étendus à une agriculture primitive, elle retourna à la vie simple des origines et oublia sa grandeur passée. Mais dans une certaine mesure seulement, car les vestiges titanesques qui dressaient encore vers le ciel dans le silence amer des ruines leur forme colossale et digne étaient encore là pour la leur rappeler. Arcadia contemplait, le cœur serré, la cordillère de métal qui saignait l'horizon. Le village où vivaient les palveurs n'était à ses yeux qu'un agglomérat de maisons petites et primitives. Les champs qui l'entouraient étaient d'un jaune doré où le froment poussait dru. Mais là-bas, tout juste à l'horizon, se dressaient encore les vestiges du passé. Là-bas étincelait encore le souvenir d'une splendeur inaltérée, brillant de mille feux lorsque le soleil de Trentor venait le frapper de ses rayons éblouissants. Une fois déjà, elle était venue à cet endroit, au cours des mois qui s'étaient écoulés depuis son arrivée sur Trentor. Elle avait grimpé jusqu'aux chaussées lisses, dépourvues de jointures, et s'était aventurée dans les bâtiments silencieux envahis par la poussière, où la lumière pénétrait à travers les crevasses qui trouaient murs et cloisons. Ce spectacle la rendait malade. Elle avait eu l'impression d'une authentique profanation. Elle était partie en éveillant des échos bruyants autour d'elle et n'avait cessé de courir qu'au moment où ses pieds avaient de nouveau foulé le sol élastique. Puis, elle avait dû se contenter de jeter derrière elle un regard plein de nostalgie. Elle n'osait plus troubler désormais la méditation de la cité endormie. Elle était née, elle le savait, quelque part sur ce monde, près de l'ancienne bibliothèque impériale, qui était ce qu'il y avait de plus trentorien sur Trentor. C'était l'endroit le plus sacré qui fût, le saint des saints. Sur toute la surface planétaire, seules ses infrastructures avaient survécu au grand pillage, et depuis un siècle, elles étaient demeurées complètes et indemnes, jetant un défi à l'univers. Là, Harry Seldon et son groupe avaient tissé leur inimaginable toile. Là, Ebling Miss avait percé le grand secret qu'il avait laissé pétrifier de surprise jusqu'au moment où il avait péri en l'emportant dans la tombe. Là, dans cette bibliothèque impériale, ses grands-parents avaient vécu pendant 10 ans, jusqu'à la mort du mulet, jusqu'à ce qu'il puisse retourner sur la fondation promise à une prompte renaissance. C'était là, à l'intérieur même de la bibliothèque impériale, là où son propre père était venu à son tour en compagnie de son épouse, dans l'espoir d'y trouver lui aussi, mais en vain, les traces de la seconde fondation qu'elle était née. Et c'était là que sa mère était morte. Elle aurait aimé visiter une nouvelle fois la bibliothèque, mais Prim Palver avait secoué sa tête ronde.
« Elle se trouve à des milliers de kilomètres, Arcadie. Et il y a tant à faire ici. D'ailleurs, c'est malsain d'aller rôder par là-bas, tu sais. C'est un sanctuaire. »
Mais Arcadia ne le savait que trop. Il n'avait aucun désir de visiter la bibliothèque. La bibliothèque avait connu le même sort que le palais du mulet. Les pygmées du présent avaient une peur maladive, superstitieuse des reliques laissées par les géants du passé. Et pourtant, Arcadia se serait senti horriblement injuste d'en garder rancune à ce drôle de petit bonhomme. Il y avait maintenant près de 3 mois qu'elle se trouvait sur Trantor, et pendant tout ce temps, il n'avait cessé, le père comme la mère, de la choyer à tour de rôle. Et que leur donnait-elle en échange? Ne risquait-elle pas de les entraîner dans une ruine commune? Les avait-elle avertis qu'elle était promise à une mort prématurée? Non. Non. Elle leur laissait tranquillement assumer leur rôle de protecteur, tout en sachant pertinemment qu'il allait leur être fatal. Sa conscience la harcelait de remords intolérables. Pourtant avait-elle le choix. À regret, elle descendit l'escalier pour prendre son petit déjeuner. Le bruit des voix parvint à ses oreilles. Prim Palver avait glissé le coin de sa serviette dans son col de chemise en imprimant une torsion à son cou dodu et tendu le bras vers les œufs pochés avec une satisfaction sans mélange.
« Hier, la mère, je suis allé à la ville !» dit-il en brandissant sa fourchette, noyant aussitôt ses paroles sous une énorme bouchée de nourriture.
« Et qu'est-ce qui se passe de beau à la ville, le père ?» demanda distraitement la mère en s'asseyant, avant de se relever aussitôt après avoir lorgné la table d'un regard scrutateur et constaté que la salière était absente.
« Les nouvelles sont pas fameuses. Un vaisseau a réussi à revenir de Kalgan avec des journaux de là-bas. C'est la guerre, il paraît. »«
La guerre ? Tiens donc. »
« Eh bien, qui se tape dessus tant qu'ils veulent s'ils ne trouvent rien de mieux à faire ?»«
Mais dis donc, au fait, tu as toujours pas reçu ta paix ?»«
Le père, dis voir au vieux Kosker que sa coopérative, c'est pas la seule, hein ?» C'est déjà assez d'avoir honte de dire à mes amis de combien elle est ta paix, si en plus maintenant elle arrive en retard.
Toi, tu y es jamais en retard pour dire des âneries,
s'exclama le père avec irritation.
Oh, tu vois, il faut pas me faire dire des choses comme ça à table, après je m'étouffe.
Et ce disant, il faisait des ravages dans la pile de tartines beurrées. Il ajouta d'un ton moins acide.
« C'est Kalgan et la Fondation qui se battent, et ça fait 2 mois que ça dure !»
À l'aide de ses 2 mains, il mima un combat spatial de fantaisie.
Et comment ça se passe ? Pas trop bien pour la Fondation. Tu as vu comment c'était sur Kalgan ? Des soldats partout. Ils étaient fin prêts, en fait. La Fondation, pas vraiment, alors forcément, pouf ! »
Soudain, la mère reposa sa fourchette et siffla.
Imbécile! Moi? Tête de pioche! Faut toujours que tu la ramènes!
Son index se tendit brusquement, et lorsque le père regarda par-dessus son épaule dans la direction indiquée, il vit qu'Arcadia était là, pétrifiée sur le seuil de la porte.
La Fondation est en guerre?
Demanda-t-elle. Le père regarda la mère d'un air consterné et hocha la tête.
Et ils sont en train de la perdre ?
Nouveau hochement de tête. Arcadia sentit monter à sa gorge une affreuse angoisse et s'approcha lentement de la table.
Ça y est, c'est fini,
murmura-t-elle.
Fini ?
Répéta le père avec une feinte truculence.
Qui a dit que c'était fini ? Tu sais. Il peut s'en passer des choses pendant une guerre et...
« Assieds-toi, mon chou !»
dit la mère d'un ton consolant.
« On ne devrait jamais parler le matin avant de manger.
On n'est pas en bonne condition, l'estomac vide. »
Mais Arcadia ne tint aucun compte de son conseil. « Les Calganiens ont débarqué sur Terminus ?»«
Non, »
dit le père sérieusement.
« Les nouvelles datent de la semaine dernière, et ils disent que Terminus se défend toujours. »«
Non, c'est vrai, et la Fondation a encore de la réserve. »«
Tu veux que je t'apporte les journaux ?»«
Oui. »
Elle les parcourut en avalant péniblement quelques bouchées, les yeux brouillés de larmes. Santani et Corel avaient été emportés sans coup férir. Une escadre de la flotte de la Fondation avait été surprise dans le secteur clairsemé d'Ifni et pratiquement anéantie. La Fondation se trouvait de nouveau réduite aux quatre royaumes, telle qu'elle se trouvait du temps de Salvor Ardin, le premier maire. Mais elle combattait toujours, et il lui restait peut-être encore une chance. Quoi qu'il arrivât, Arcadia devait informer son père. Il fallait à tout prix qu'elle parvînt à le joindre. Il le fallait. Mais comment, avec une guerre en cours?
« Vous allez bientôt repartir en mission, monsieur Palver ?»
demanda-t-elle après le petit déjeuner. Le père était assis dans son grand fauteuil sur la pelouse devant la maison. Il prenait le soleil. Un gros cigare se consumait entre ses doigts boudinés. On aurait dit un de ces petits chiens à poils ras au museau aplati. Il avait l'air aux anges.
« Une mission ?»
répéta-t-il paresseusement.
« Je sais pas trop, en fait. On est bien en vacances. Mes congés sont pas encore terminés. Pourquoi tu me demandes ça ?
Tu en as déjà marre d'être ici, Arcadia ?
Moi ?
Non. Je me plais bien ici.
Vous êtes tellement gentil avec moi, vous et Madame Palver. »
Il agita la main, comme pour écarter ses éloges importuns.
« Je pensais à la guerre, » dit Arcadia.
« Justement, faut pas y penser. Qu'est-ce que tu peux y faire, toi, de toute façon ? Quand on peut rien faire, c'est pas la peine de se faire du mal comme ça pour rien. »
Je pensais que la Fondation avait perdu la plupart de ses planètes agricoles. Ils doivent être obligés de se rationner à l'heure qu'il est.
Le père sembla mal à l'aise.
« T'en fais pas. Ça va aller. »
Elle écoutait à peine. « Si seulement je pouvais leur envoyer de la nourriture. » Vous savez qu'après la mort du mulet, la Fondation s'était révoltée. Terminus s'était retrouvé isolé du coup. C'est le général Anne Pritcher, qui avait succédé pendant quelque temps au mulet, qui en faisait le siège. Il n'y avait presque plus rien à manger. Et mon père m'a dit que son père lui avait dit que tout ce qu'il leur restait, c'était des acides aminés déshydratés qui avaient un goût affreux. À ce moment-là, un œuf, ça coûtait 200 crédits, vous vous rendez compte ? Puis le blocus a été levé juste à temps, et des cargos pleins de vivres sont arrivés de Santani. Ça a dû être terrible quand même. Si ça se trouve, c'est ce qui se passe. Ça recommence.
Après un court silence, Arcadia continua.
Je parie que la Fondation serait prête à payer des tarifs de contrebande pour arriver à avoir de la nourriture en ce moment. Le double ou le triple ? Peut-être même plus, si ça se trouve.
Ouais. Ça, c'est une idée. C'est une coopérative de Trentor s'y mettait, par exemple. C'est sûr qu'elle perdrait peut-être quelques vaisseaux, mais... je parie qu'elle serait milliardaire avant la fin de la guerre. Les marchands de la Fondation, à leur époque, ils faisaient ça tout le temps. À chaque fois qu'il y avait une guerre, ils s'arrangeaient pour vendre les marchandises dont les gens manquaient le plus. Ça valait le coup de prendre quelques risques. Ils arrivaient à gagner jusqu'à 2 millions de crédits en un seul voyage, bénéfice net. Et encore, c'est parce que c'était le maximum qu'ils pouvaient transporter sur un seul vaisseau.
Le père s'agita. Son cigare s'était éteint sans qu'il le remarquât.
Leur vendre de la nourriture ? Ouais. C'est une idée, ça. Mais c'est loin, dis donc, la fondation.
Je sais. J'imagine que ça ne doit pas être possible directement depuis ici. En empruntant un vaisseau des lignes régulières, vous pourriez guère aller au-delà de Masséna, ou de Shmushik à la rigueur. Et il faudrait louer un petit vaisseau de reconnaissance ou un truc de ce genre pour vous faufiler entre les lignes.
Le père se mit à se caresser les cheveux. Il faisait ses calculs.
2 semaines plus tard, les arrangements concernant la mission étaient terminés. La mère invectivait le père la plupart du temps. D'abord pour l'incurable obstination avec laquelle il courait au suicide, ensuite pour l'incroyable obstination qu'il déployait à lui refuser la permission de l'accompagner.
« La mère, on dirait des caprices de grand-mère !» dit le père. « Je ne peux pas t'emmener. C'est un travail d'homme. Tu crois que c'est un jeu d'enfant, la guerre ? Et toi alors, pourquoi tu y vas ? Tu te prends peut-être pour un homme, vieux sacripant ? T'as déjà un pied et la moitié du bras dans la tombe ? Laisse donc la jeunesse y aller à ta place.
Regardez-moi ce gros plein de soupe, qu'a plus un poil sur le caillou.
D'abord, je ne suis pas chauve, rétorqua dignement le père. J'ai encore des tas de cheveux même. Et pourquoi que ce serait pas moi qui irais? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je laisse tout cet argent aux jeunes, hein? Moi aussi j'ai droit à ma commission. Enfin quoi, il y a sûrement des millions à gagner.
Elle ne l'ignorait pas, et elle se calma.
Arcadia le revit une fois avant son départ. « Vous partez pour Terminus ?» s'enquit-elle.
« Pourquoi pas ? Tu as dit toi-même qu'ils avaient besoin de pain, de riz et de pommes de terre. Eh bien voilà, je vais faire affaire avec eux, et ils auront ce qu'ils veulent. »«
Bon. Eh bien alors... » Juste une petite chose. Puisque vous allez sur Terminus, vous pourriez aller voir mon père ?
Le visage du père se plissa tout à coup, au comble de l'attendrissement.
Eh bien, tu en as mis du temps, mais bien sûr que je vais aller le voir, ton papa. Je lui dirai que tu n'as rien, que tu te portes bien et qu'une fois la guerre finie, je te ramènerai.
Merci. Je vous dirai comment le trouver. Il s'appelle Thoran Darrell, il est docteur et il habite Stanmark. C'est dans la banlieue immédiate de Terminusville et vous pourrez prendre le petit avion navette qui y conduit. Nous habitons 55 Allée du Canal.
Attends, je vais noter l'adresse.
Non, non. Arcadia tendit un bras rapide comme l'éclair. Il ne faut rien écrire. Il faut l'apprendre par cœur. Et une fois là-bas, il faudra vous débrouiller pour trouver le chemin sans avoir à demander à personne.
Le père parut intrigué. Puis il haussa les épaules.
Bon, d'accord. 55 Allée du Canal à Stanmark, dans la banlieue de Terminusville, et on prend l'avion navette, c'est bien ça ?
Encore un truc ?
Oui.
Vous voulez bien lui dire quelque chose de ma part ?
Bien sûr.
Je veux vous le dire à l'oreille.
Il inclina vers elle sa joue dodue. Et elle lui chuchota quelques mots.
Les yeux du père étaient ronds comme des soucoupes.
C'est ça que tu veux que je lui dise ? Mais ça veut rien dire.
Oui. Mais lui, il saura ce que ça veut dire. Dites-lui juste que c'est moi qui vous ai dit de le dire et que je vous ai dit qu'il comprendrait. Mais il faut le dire exactement comme moi, pas autrement. Vous n'oublierez pas.
Il n'y a même pas 10 mots dans ta phrase, et des petits en plus. Non, ça risque pas.
Tu vas voir.
Non, non.
Elle bondit littéralement sur place au comble de l'énervement.
Ne le répétez pas.
Ne le répétez jamais à personne, sauf à mon père. En attendant, il faut même plus y penser, vous le jurez ?
Le père haussa de nouveau les épaules.
Jurez, c'est promis.
Très bien, dit-elle d'un ton lugubre. Et tandis qu'elle le regardait remonter l'allée conduisant à l'aérotaxi qui devait le mener au spatioport, elle se demanda si elle ne venait pas de signer l'arrêt de mort du brave homme, si elle le reverrait jamais. C'est à peine si elle osait rentrer à la maison et se trouver de nouveau face à face avec la mère, sa bonne et affectueuse maman d'adoption. Peut-être, lorsque tout serait fini, serait-il préférable qu'elle se tuât pour expier le mal qu'elle leur aurait fait.